all the characters I live, I really don't see them. I see them beyond their frontiers. For me, frontiers, they don't really exist, especially as women, men, even myself. Now I'm the citizen of the world. I don't have any more roots, but my roots are growing into hearts of people, into art, into cinema, into creation.
Deuxième partie de la Grande Table en deux temps, suite donc de notre Grande Table spéciale Cannes, avant de retrouver la séquence des critiques autour de 13h15. Rencontre d'abord avec l'équipe d'un film qui nous parle du monde qui nous entoure. Porter la parole des femmes, du tapis rouge à l'écran. Dans son journal de Cannes, Antoine Guillot revenait sur l'appel des 82 femmes qui ont gravi, unies et solidaires, les marches du palais des festivals, derrière Cate Blanchett et Agnès Varda. Ce soir-là, samedi, la symbolique de cette montée 100% féminine en faveur de l'égalité s'est prolongée dans la salle, avec la projection des Filles du Soleil, le deuxième long-métrage de la réalisatrice Eva Husson, sur un commando de femmes soldats kurdes avec la comédienne Golshifteh Farahadi qu'on entendait. Un film sur les femmes, réalisé par une femme et produit par une femme, Didar Domery. Difficile de passer à côté du message du film. Nous sommes toutes des combattantes, message très appuyé. Un film qui pose néanmoins un certain nombre de questions sur la guerre et les femmes, sur l'esthétique de la violence, sur le rapport aussi que la fiction entretient avec la réalité. Quelle fidélité pour en parler. Rencontre avec la réalisatrice Eva Husson et avec la comédienne Emmanuelle Berco qui joue ici une photographe de guerre. C'est dans son œil, dans sa caméra, qu'on suit ces femmes au combat dans le Kurdistan irakien. Mais d'abord, extrait.
ايوه بهزن بونتن ليرا سركوتنا قبول نكردني جردستي سركوتنا شر كردن سركوتنا.
Bonjour Eva Husson.
Bonjour.
Bonjour Emmanuel Berco.
Bonjour.
J'ai une question toute simple. Pourquoi un film sur les femmes kurdes? Ça aurait pu être les femmes mexicaines.
Ça aurait pu être les femmes mexicaines parce que il y a longtemps de ça, j'avais eu envie de parler des fémicides de Ciudad Juárez. Donc effectivement,
c'est pas si loin.
Non, mais à l'époque, en fait, on m'avait dit que c'était trop dangereux d'y aller. En fait, c'est pour ça que j'ai à Ciudad Juárez. Enfin bref, donc là, c'est sur les femmes kurdes. Et c'est le fait qu'elles soient kurdes, c'est vraiment venu après ce qui s'est passé. C'est que moi, j'ai lu une histoire de femme, tout d'abord, qui m'a touchée. Et il se trouve qu'elles sont kurdes et que la cause kurde a forcément une résonance avec mon histoire personnelle, puisque mon grand-père était un soldat républicain la guerre civile espagnole. Il s'est exilé. C'est vraiment quelque chose que je porte assez fort en moi, le combat contre le fascisme et l'idéal démocratique. Donc ça y est, vraiment une collusion d'un intérêt assez contemporain que j'ai sur la représentation de la femme et une histoire familiale qui est venue rencontrer ce truc-là.
En fait, en regardant le film, on se demande si, au fond, les femmes font vraiment la guerre différemment des hommes.
Alors moi, je ne me suis pas du tout posé la question. Parce que pour moi, c'était pas ça qui m'intéressait. Je pense qu'un flingue, ça se tient d'une manière qu'on soit homme ou femme. Donc je me suis vraiment pas posé la question de ça. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment leur parcours. Et je l'ai retracé à partir des témoignages qu'on m'a fait. Donc j'ai pas investi ça d'une quelconque idéologie que ce soit. Voilà, je pense juste qu'en fait, les femmes n'ont pas été représentées au cinéma en faisant la guerre avant. C'est aussi simple que ça, en fait.
Leur parcours, c'est un commando de femmes anciennes captives, voilà, qui ont donc été détenues, retenues, violées, pour certaines, voire pour la plupart, séparées de leurs enfants et de leurs maris. Emmanuel Berco, justement, quel combat mènent ces femmes pour vous, telles que vous les voyez aussi dans le film, vous, à travers votre rôle de reporter, de journaliste, puisque vous êtes là-bas pour faire notre boulot. Quel combat elles mènent pour vous, ces femmes? Contre quoi elles sont vraiment en guerre?
Contre leur statut de victime. Prendre les armes, c'est la seule façon, après tout ce qu'elles ont subi, de résister et de vaincre. Il n'y a pas d'autre choix. Comment est-ce qu'on peut rattraper ce qu'on a subi quand ça atteint de telles horreurs. Moi, je pense qu'il y a aussi un esprit de vengeance, mais Eva n'est pas du tout d'accord avec ça, donc je ne veux pas dire des choses qu'elle n'a même pas voulu raconter. Mais moi, il me semble que si je devais me mettre à la place de ces femmes, je serais forcément animée par un esprit de vengeance. Et je trouve qu'il y a quelques petits moments, en tout cas dans le personnage de Bahar, qu'interprète Goldshifty dans le film, où on sent qu'elle a la rage de tuer et qu'on sent que... Elle fait quand même payer quelque chose.
Je suis pas en désaccord avec toi, mais c'est accessoire pour moi. C'est-à-dire que ça vient avec le reste, mais c'est pas du tout une motivation première. Et je disais, je m'inscrivais un peu en faux contre ça quand on en avait parlé la dernière fois, juste parce que je voudrais surtout pas qu'on fasse l'erreur de croire que c'est un revenge movie ou qu'il s'agit de ça. Ces femmes, elles le font pour elles. Elles le font pas pour tuer des mecs au départ. Elles croient en un idéal parce que c'est la seule manière qu'elles ont de se reconstruire. C'est-à-dire que sinon, moi j'ai vu la réalité des femmes qui combattent pas. Elles sont parquées dans des camps dans lesquels elles restent pendant des années, dans des tentes, boueux pendant l'hiver, glaciales. Enfin, les perspectives sont absolument atroces. C'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi une des seules manières qu'elles ont de se reconstituer un collectif qui soit dans l'action. Je pense que l'être humain est profondément pas fait pour être passif. Et que ça le déshumanise. C'est ça. Si je reparle de mon grand-père, moi j'avais un peu étudié du coup les camps de concentration espagnols à leur arrivée en France. Les gens qui n'arrivaient pas à en sortir très rapidement, qui ne trouvaient pas de structure, et les structures étaient souvent politiques, c'était souvent les communistes qui créaient des réseaux pour extraire les gens à l'époque. Les gens qui restaient devenaient fous. Et c'est ce qu'elles font ces femmes. C'est pour éviter de devenir folles, elles prennent les armes.
Elles veulent se réapproprier à la fois leur corps, mais aussi leur vie, leur destin. C'est comme ça que vous le percevez aussi. Il est dit à la fin du film, elles sont notre modèle à tous. Est-ce que vous faites le lien, clairement, en vous, entre cette idée que du Kurdistan au quotidien, toutes les femmes sont quand même des combattantes?
Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui n'ont pas lutté contre le système tel qu'il est fait, que ce soit en Occident ou ailleurs, à des degrés divers et variés, de manière consciente ou pas. Il y a plein de femmes qui ne se sentent pas en guerre alors qu'elles passent leur vie à lutter, parce que, ne serait-ce que par exemple en France, l'inégalité salariale, ça fait quoi? Ça fait que on a moins d'argent à la fin du mois et on galère toujours plus. Et c'est aussi se battre contre les éléments, en fait. Donc même si on ne le sent pas, même si on a l'impression qu'on vit dans une société très égalitaire, le fait est que non. Après, je pense pas que toutes les femmes soient combattantes de manière active, et chacune trouve son propre niveau de combat qui lui convient. Mais en tout cas, elle, c'est vraiment l'incarnation du combat de la femme, quoi. D'ailleurs, un de leurs mots de guerre, c'est la femme, la vie, la liberté. Et ça, c'est un slogan qui est réel, en fait, des combattantes kurdes.
Emmanuel Berko, on vous avait déjà vu ici à Cannes à l'occasion de Mon Roi, qui vous a valu une palme, un prix d'interprétation féminine. Sur ce film, est-ce que vous avez le sentiment que le portrait de femme, par exemple, qui est fait dans Mon Roi, est très différent de la femme que vous incarnez aujourd'hui dans Les Filles du Soleil?
Ah oui, non, rien à voir. Non,
la situation est évidemment différente. Mais est-ce que là,
Non, il n'y a aucun point commun.
Qu'est-ce qui les différencie?
C'était justement tout. Je rends grâce à Eva d'avoir pensé à moi pour un personnage comme celui-là. Elle est bien la seule. Parce qu'à vrai dire, on me propose quand même énormément de personnages quasi identiques à celui que j'interprète dans Mon Roi.
Donc, il y a une évidence pour moi.
Donc voilà, c'était vraiment jouissif pour moi de pouvoir changer à ce point d'univers, de regard et puis de personnage.
C'est-à-dire une femme.
Ce qui est extraordinaire, je trouve, avec Emmanuel, c'est qu'elle a juste, regardez là, elle est assise, elle est intense. C'est-à-dire, elle fait rien, elle est intense. Et c'est. C'est ça qui était hyper dur d'ailleurs à trouver dans le personnage de la journaliste, parce que une journaliste, il y a beaucoup d'écoute. Et c'est très compliqué d'avoir l'air à l'écran, d'être vraiment dans l'écoute et intense, en ayant une présence. Il n'y a pas beaucoup d'actrices qui peuvent se permettre ça. Donc je lui rends hommage parce que c'est vraiment extraordinaire.
C'est un rôle de composition. Alors que nous, on essaie de pas faire semblant, vous voyez, c'est ça la différence. Juste, Eva Husson, pour vous, il y a des très belles images dans ce film. Il y a des ralentis, des combats qui sont presque chorégraphiés. On voit les corps de ces femmes combattantes presque danser à l'écran. Des visages qui sont filmés très très près, dont celui magnifique de Golshifteh Farahani. Il y a aussi cette poésie révolutionnaire que vous retranscrivez à travers les chants, notamment. Mais on a quand même envie de se demander, même si la cause est juste, au fond, toutes les guerres restent quand même assez sales, du viol à la mort, que vous n'éludez pas dans ce film. Jusqu'où est-ce qu'on peut, pour vous, esthétiser la violence ?
Alors, c'est marrant, c'est un procès très franco-français, que je ne comprends pas.
Vous dites procès ?
Un procès franco-français.
C'est pas juste une question.
Non, mais
quand
on dit esthétiser la violence... Mais moi, j'ai pas du tout l'impression d'esthétiser la violence. Déjà, je la montre quasiment pas, en fait, la violence. Parce que...
Non, vous montrez la vie à travers l'accouchement, mais vous montrez pas le viol.
Exactement.
Vous montrez le...
Je reste soigneusement en dehors des choses qui sont dans l'insupportable, parce que je pense que on a assez de ressources en nous-mêmes en tant que spectateurs pour se l'imaginer. Et moi, ce qui m'intéressait justement, c'est au contraire, sur la violence, en tout cas dans le film, j'ai l'impression, c'est qu'elle est un minimum visuel. C'est-à-dire que, en fait, quand vous parlez de ralenti, etc., c'est surtout sur des moments de contemplation. Mmh. Et la violence en elle-même, elle est plutôt sèche, en fait, dans le film. C'est-à-dire que je reste un peu en dehors, je reste à côté. Oui, quand il se tire dessus, il faut bien que je le montre, parce que à un moment, sinon, on comprend pas narrativement ce qui se passe. Mais je fais pas des scènes de 20 minutes avec 42 000 balles, avec bien plus de chargeurs que les acteurs pourraient avoir. Voilà.
Mais vous tenez quand même à rappeler que c'est de la fiction. Ouais. En ce sens, vous pouvez vous autoriser à prendre aussi des libertés avec la réalité. C'est quand même du cinéma. Et ça passe aussi par l'image pour vous?
Oui, la lumière est essentielle pour moi, les couleurs, le rapport au temps. Mais pour moi, c'est des libertés qui touchent au subjectif, à la perception subjective qui, je pense, en fait, permet de faire un voyage émotionnel au spectateur, dans lequel il s'embarque ou pas, mais s'il s'embarque, ce que j'essaye de faire, c'est de lui faire ressentir, quand le temps s'étire pour Barre, j'ai envie qu'il ressente ça, quand tout se passe trop vite et qu'on sort d'un truc ultra violent très rapidement, j'ai envie qu'il sente cette chose-là. Et ma liberté, elle est dans la subjectivité. Le socle de documentation, il est hyper solide, il est très carré, en fait. Et à partir du moment où je sais que ça, c'est établi, et que je connais très bien le monde dans lequel j'évolue, je pense qu'en tant que cinéaste, je peux faire intervenir mon personnage et montrer au spectateur ce que le personnage ressent émotionnellement. Et c'est là où je parle de liberté, moi.
Et je reviens juste à la cause juste, parce que cette histoire des Kurdes, elle est toujours en train de s'écrire, ouais, en ce moment. Ouais. Le Kurdistan n'existe pas. Ouais. Se battre pour avoir son État, récupérer ses villes, ses villages, comme, ouais, c'est le cas dans votre film. Est-ce que vous avez quand même, pour vous, un devoir de vraisemblance, un devoir de fidélité par rapport à la réalité, à partir du moment où cette histoire s'écrit encore ?
Oui, oui, et c'est ce que je dis. C'est-à-dire que même si les noms de factions, les dates, les endroits sont changés, après, j'ai respecté les chartes visuelles de leur code de couleur, j'ai respecté les conflits internes qui existent entre eux, parce que c'est un des problèmes aussi de la communauté kurde, c'est que comme il n'y a pas d'État, il n'y a pas d'administration, tout est très compliqué, évidemment, pour harmoniser tout ça. Et je voulais aussi prendre cette distance, ça me permettait qu'on se trompe pas en pensant que je prendrais parti pour une cause kurde plutôt qu'une autre, et parce que vraiment ce qui était important, c'était l'histoire de femmes, mmh, et l'histoire d'un peuple qui n'a pas de terre.
Donc en fait, le cinéaste n'a pas forcément la même responsabilité que le reporter que vous incarnez, Emmanuel Berco. Quand elle part, ouais, la chef du commando lui dit « raconte ce que t'as vu et raconte la vérité ». Là, pour le reporter, il y a peut-être ce souci-là, c'est pas celui du cinéaste pour vous ?
Emmanuelle Bercot, vous êtes aussi réalisatrice.
Si c'est la mission du reporter, ouais, de rapporter
non,
la
vérité. Et du cinéaste, est-ce que le cinéaste n'a pas la même responsabilité, le même mot par rapport à la vérité, par rapport à la réalité que le reporter ou le journaliste doit l'avoir?
Ça dépend quel est son style et son inspiration. Moi, par exemple, je suis obsédée par la vérité, donc c'est la seule chose que je recherche dans mon travail. Et je peux aussi apprécier et comprendre des cinéastes qui recherchent justement complètement l'inverse. On n'a aucun devoir de vérité. La seule chose, c'est quand on raconte l'histoire de quelqu'un qui existe, d'une personne réelle, là, il me semble qu'il faut quand même être assez honnête,
fidèle.
Enfin, fidèle, là, on peut changer des choses, mais il faut pas trahir une personne vivante qui vous fait confiance et si vous racontez son histoire. Ça me paraît. Mais au-delà de ça, non, on n'est pas tenu de raconter la vérité. Et même une reporter de guerre, elle ne va raconter les choses que de la manière dont elle les a ressenties. Qui dit que c'est la vérité? Je pense qu'en tout cas, quand Mathilde quitte le camp et laisse Bahar, elle a pas envie de la trahir. Donc elle essaiera de raconter au plus près de ce qu'elle pense être la vérité pour Bahar.
Justement, moi, quand je mettais ces mots dans la bouche de Bahar, c'était justement parce que la vérité est quelque chose de complètement élusif et insaisissable. Donc elle sait que c'est une question, en fait, qu'elle pose. Elle lui pose la question de la vérité. Et quelle est la vérité sur, justement, la cause kurde? Elle est pas facile.
Emmanuelle Bercot, vous avez cette double casquette à la fois de comédienne et de réalisatrice. Du coup, on a quand même envie de vous demander si ce film, vous l'auriez tourné de la même manière.
Non, je l'aurais pas tourné, déjà.
Pourquoi?
Non, je rêve de faire un film de guerre, elle le sait, mais moi, je suis pas du tout...
C'est un film de femme ou c'est un film de guerre?
Non, pour moi, c'est un film de guerre. J'ai envie que ça en soit. C'est un film qui raconte une guerre faite par des femmes. Oui, mais ça reste un film de guerre. Moi, je rêve de faire un film de guerre. J'aurais pas fait celui-là pour la bonne raison que j'ai pas du tout les compétences, ni l'intérêt qu'a Eva pour les choses géopolitiques, et j'aurais été absolument incapable de raconter une histoire comme celle-là, parce que je crois que je n'aurais pas été assez habitée par ce sujet, et qu'on a besoin d'être habité par les sujets, et Eva l'était totalement, et c'était sa place de faire ce film, ça ne pouvait pas être la place de beaucoup de gens.
Voilà, on termine là-dessus. Un film de guerre qui ne respecte pas totalement les codes du film de guerre.
Mais cette histoire du film de guerre est intéressante parce que je l'ai réfléchi comme ça au début. Et en même temps, plus ça va, plus je me rends compte que, aussi étrange que ça puisse paraître, c'est pas un film de guerre. Pour moi, c'est une odyssée. Dans tout ce que ça a d'ampleur tragique, de quête, de perte des siens, de reconstruction de l'identité. Et oui, la guerre fait partie de ça. Mais je pense, quand on a vu le film, il y a plus de la moitié du film qui n'est pas de la guerre en tant que telle. Donc il y a vraiment un travail là-dessus que je trouve important. Je pense que c'est trop réducteur par rapport à ce qu'on véhicule dans le film.
Et trop réducteur aussi de dire que c'est un film de femmes qui parle que des femmes. Là-dedans par la mise en scène presque de la soirée, c'est-à-dire faire cette montée des marches presque 100 femmes, puis après voir un film de femmes avec des femmes sur des femmes produit par une femme.
Mais après, c'est la formule même est intéressante parce que ça pose une grande question. Un film de femmes, on parle jamais de film d'hommes. Donc à partir du moment où on a besoin de formuler cette étiquette, c'est qu'il y a un problème systémique de représentation des femmes au cinéma. Quand il y aura autant de films faits par les femmes sur les femmes que de films faits par les hommes sur les hommes, on n'aura plus cette espèce de besoin de dire « Waouh, un film de femme, un truc de dingue ». Voilà.
Souhaitons que ça arrive. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci.
France Culture. Local au Circo. La grande table en direct du Palais des Festivals.
Always have to be about you, Sancho.
Odyssée à 14702 et prima.
Olivia Gesbert.
Une rencontre et des critiques, 13h15 sur France Culture, première de nos trois grandes tables en direct de Cannes. Jusqu'à mercredi, nous vous proposons chaque jour un retour sur les films qui ont fait parler d'eux au festival dans la séquence des critiques. Aujourd'hui, Michel Simon, critique légendaire du magazine Positif, en dialogue avec l'américaine Lisa Nezelson du magazine britannique Screen. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec là. Donc on est content de voir un peu avec vous comment se déroule cette 71e édition qui suit son cours et déjà quelques films qui ont retenu votre attention On va commencer d'abord avec un ovni cinéphilique, celui peut-être le plus surprenant de ce festival, un des films les plus novateurs, fait par un cinéaste mythique, par une figure de 87 ans, 50 ans après mai 68 où il avait interrompu les projections, 4 ans après avoir reçu le prix du jury pour Adieu au langage, Jean-Luc Godard fait à nouveau entendre sa voix si reconnaissable à Cannes avec le livre d'images, bande-annonce.
Camera.
Moteur.
Motore. Partito.
Check.
Odissea 14702 prima.
Le livre d'images de Jean-Luc Godard, un film en fragments, il faut un peu s'accrocher à son fauteuil au début pour suivre. On n'a plus l'habitude de voir des films sans narration évidente, surlignée comme celui-ci. Puis après, il faut se laisser porter. Honneur aux dames, Lisa Nezelson, qu'en avez-vous pensé ?
Ah, je suis toujours content que ce monsieur est toujours en activité, toujours en train d'explorer, d'examiner les possibilités du cinéma. Et je dois dire que le film en soi, on a tout de suite envie de le revoir parce qu'on sait qu'on n'a pas capté la moitié de ce qu'il y avait à l'écran, y compris monsieur Godard, parce qu'à la conférence de presse, il y avait un journaliste qui a posé la question parce qu'il y avait un extrait du film de Michael Bay sur Benghazi. Il avait demandé, est-ce que vous êtes fan de Michael Bay? Il a dit, bah, je sais pas, j'ai vu tant de films, est-ce que j'ai mis un extrait de ce film là-dedans? Et le journaliste a dit, mais c'est dans le générique de fin, monsieur Godard. Il a dit, bah, vous pouvez utiliser l'Internet pour me le montrer. Donc, c'était un truc godardien à fond.
Parce que Michel Simon, c'est un film composé d'extraits de films et un film littéraire aussi. Est-ce que vous avez tout reconnu, vous, toutes les pièces de ce puzzle Godard?
Oui, j'ai reconnu beaucoup de pièces. À peu près la seule chose que j'ai compris dans le film, c'est-à-dire effectivement des extraits, parce que j'ai même signalé, par exemple, que le dernier morceau du film, c'est le masque dans le film de Max Ophüls, Le Plaisir. C'est le premier épisode. Donc, ça, c'est un plaisir de cinéphilie. Et puis, mon âge qui fait que j'ai vu beaucoup de films. En dehors de ça, je n'ai strictement rien compris. Et d'ailleurs, j'ai noté que la plupart des admirateurs de films sont d'accord avec moi. Ils n'ont rien compris, mais ils sont très heureux de ne pas comprendre. Et moi, j'ai ce défaut majeur, c'est-à-dire j'aime comprendre. Godard était un immense cinéaste. Quand il parlait de ses douleurs de cœur, quand il parlait d'avoir été abandonné par une femme, il faisait Pierrot le fou, il faisait Le Mépris, etc. C'était bouleversant. Il réservait ses âneries philosophiques aux journaux à l'époque. C'est-à-dire, il donnait des entretiens stupides où il faisait des paradoxes, il provoquait constamment. Aujourd'hui, son cinéma est nourri de ses interviews d'il y a 40 ou 50 ans. Et malheureusement, je trouve que c'est quelqu'un qui n'a plus l'inspiration. C'est une voix sépulcrale qui a l'air de nous annoncer c'est vraiment l'homme de la Suisse romande qui nous parle d'une sorte de fin du monde, d'apocalypse. Le cinéma est en train de mourir. Moi, je n'accepte pas cette idée. Je pense que le cinéma est très vivant. Et donc, j'ai trouvé ce film, encore une fois, extrêmement lassant. Et j'ai pas du tout envie de le revoir comme Lisa, parce que je sais que je ne comprendrai pas plus la deuxième fois.
Alors, on est en train de reproduire le clivage dans ce studio qu'on a pu voir ou entendre dans la presse, dans les médias, au lendemain de la projection du film. Les Français assez réservés, qui n'aiment pas trop le film, le juge un peu suspect, une fumisterie, dira même, pour pas nous étonner, Le Figaro. La presse étrangère, elle, est plutôt enthousiaste, elle crie au génie. Lisa?
Ce qui me touche, c'est que chaque fois il y a une conférence de presse, j'ai assisté, je crois que c'était en 96, et il n'y avait pas un seul Français dans la salle pour la conférence de presse. C'était les gens qui ont appris le français pour comprendre l'œuvre de grand Godard en VO, et les gens étaient vraiment comme ils parlaient avec le pape devant Monsieur Godard. Godard était chez lui en Suisse et il y avait un téléphone portable. Et comme j'ai dit, c'était un moment complètement godardien parce que les gens approchaient au micro et parlaient à un téléphone. Mais il y avait un monsieur avec une cigare vivante et de bonne humeur en plus parce que en personne, il avait souvent l'habitude, s'il trouvait une question bête, il se taisait complètement, il disait rien. Mais là, il voulait dialoguer avec les gens. Ah, vous êtes de la Russie, la Russe, c'est une langue très beau, ce genre de choses.
On peut juste pas quand même en faire une pièce de musée de ce film, Michel Simon, et on terminera peut-être là-dessus. C'est quand même un film assez politique, révolutionnaire à la manière de Godard. Dans cette époque, en 2018, vous avez peut-être pas tout compris au film, mais
non,
vous n'êtes pas passé
compris.
À côté.
Non, c'est pas que j'ai pas
mais
tout
est-ce
compris.
Est-ce que vous êtes
je
aussi passé à côté
compris.
De l'intention de ce film?
Non, j'ai trouvé le travail sur la pellicule, enfin pas la pellicule, sur le numérique tout à fait brillant, parce que c'est un homme qui sait manipuler les images de façon brillante. Mais dans quel but, je n'ai pas, encore une fois, je n'ai pas compris. Quand je vois un film de Chris Marker, qui est un philosophe aussi, comme Godard, quand je vois Le fond de l'air est rouge, ou bien Sans soleil, c'est sublime d'intelligence. Excusez-moi, mais quand je lis Spinoza ou Nietzsche, ça demande un effort, mais je comprends ce que disent ces philosophes. Je pense qu'un philosophe qu'on ne comprend pas, parce qu'il n'est pas un philosophe, eh bien c'est lassant, c'est fatigant. Et je pense d'ailleurs que cette acclamation de 20 minutes de toute une salle, pas en nœud papillon, parce que c'était pas le soir, ce sont des gens qui adorent Godard une fois tous les 3 ans à Cannes, d'être filmés par les caméras de Cannes, mais qui ne vont jamais acheter à la Fnac Adieu au langage, pour le regarder le soir avec leur femme. Ils veulent bien voir un film de Godard, mais seulement à Cannes, en cérémonie, tous les 3 ans. Et je trouve que c'est triste, parce que pour moi, le cinéma, c'est beaucoup plus passionnant que cela.
Alors, un coffret, un des films d'ailleurs de Chris Marker, aux éditions Arte, vient de sortir. Arte qui soutient aussi ce film de Jean-Luc Godard, Le Livre d'Images. On retiendra peut-être cette phrase citée par le cinéaste lors de la conférence de presse. Rappelons qu'il n'était pas à Cannes physiquement, mais qu'il a donné par téléphone portable une conférence de presse très 2018. Ça dépend, et on lui demandait s'il allait continuer à faire des films. Ça dépend de mes jambes, a-t-il répondu, beaucoup de mes mains et un peu de mes yeux. J'ai de la peine à vivre ma vie, mais j'ai le courage de l'imaginer. La Grande Table à Cannes, vous parlez aussi avec nos amis critiques d'un film russe, celui de Kirill Serebrennikov, Leto. Si Kirill Serebrennikov, autre absent physiquement de ce festival, car assigné en résidence, c'est un film sur la naissance du rock en URSS.
Лето, яркий шарин, как котлета. Время есть, а денег нет. Но мне на это наплевать. А-а-а. Лето. Я купил себе газету. Газета есть, а пива нету. Я иду его искать. Ага. Вот лето. Сегодня сейшн в Ленсовета. Там будет то и будет это. А не сходить ли мне туда да 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 да.
Alors Michel Simon, est-ce qu'il fait bon d'être jeune en URSS au début des années 80?
Ben, bon, quand on chante du rock et qu'on écoute du rock. C'est un film qui a été effectivement une vraie révélation, parce qu'on annonçait que ce festival allait être plein de noms nouveaux. Or, on constate que les meilleurs films que nous avons vus, ce sont par des gens qui sont déjà très installés. Serebrennikov avait montré un très beau film il y a 3 ans, mal accueilli, qui s'appelait Le Disciple, sur un fanatique religieux. Et on sait que c'est un metteur en scène de théâtre très connu. Il a monté des pièces à Avignon. Il est actuellement en résidence surveillée. Ce film est vraiment un excellent film, avec des mouvements de caméra absolument merveilleux, une histoire d'amour godardienne avec 3 personnages, une femme et 2 hommes, avec un rock star naissant qui monte, un asiate, et puis d'autre part la grande vedette du rock russe de cette époque. J'ai trouvé à la fois la recréation des moments musicaux tout à fait merveilleux, et puis aussi cette histoire personnelle qui n'est pas du tout caricaturale, qui est très belle. Donc je pense que c'était effectivement une vraie une vraie découverte pour beaucoup au Festival de Cannes.
Lisa Nezelson.
Ah, je suis tout à fait d'accord avec Michel. Je suis née à peu près au même moment que le rock'n'roll aux États-Unis. Donc, de voir que ce style de musique est arrivé en Union soviétique que 20, 25 ans plus tard et que ça a touché les gens à ce point-là, malgré le fait qu'ils ne comprenaient peut-être pas les paroles. Je ne sais même pas comment les disques sont arrivés dans URSS. Et c'est dans une magnifique noir et blanc et je ne savais même pas que ce sont des personnages vrais qui sont connus au niveau culte ou au niveau national, aux Russes d'aujourd'hui, qui ont eu une influence énorme à la jeunesse. Et cette idée de rébellion qui vient de l'Ouest et qu'ils ont appliquée comme ils pouvaient, l'idée d'assister à un concert de rock où il y a des ouvreuses qui viennent vous toucher aux jambes si vous commencez à taper votre pied avec la musique, parce qu'il faut respecter ça un peu comme l'opéra, quand c'est tout à fait le contraire.
Et c'est un film qui nous parle encore aujourd'hui, qui parle d'une autre époque, mais qui est tout à fait compréhensible pour la jeune génération russe aujourd'hui, pour vous, Lisa.
Ah bah j'imagine, parce que l'idée d'être opprimé à ce point-là, côté culture, que les dirigeants ont toujours peur de la culture, que la rébellion, que les révolutions commencent là. Ça, c'est une idée très forte, je crois.
Michel Simon, autre film musical et en noir et blanc présenté en sélection officielle à Cannes, Cold War du Polonais Paweł Pawlikowski. Vous en avez pensé quoi ?
Ben, du bien. Paweł, alors c'est le deuxième slave de cette émission, puisqu'il y a des points communs, c'est très différent. C'est un film dans un noir et blanc magnifique, c'est un film beaucoup plus composé, beaucoup plus classique. Là aussi, Paweł Pawlikowski a été écarté de Cannes pendant des années, alors qu'il avait fait de remarquables films en Angleterre, et Ida, évidemment, qui a été un énorme succès dans le monde entier. Et on retrouve effectivement le thème musical, vous avez raison de le souligner, puisque c'est l'histoire c'est une femme qui chante dans les chœurs et qui tombe amoureux d'un écrivain qui ensuite lui va s'exiler, qui va partir à Paris et se retrouve ensuite à Paris. Donc c'est une histoire d'amour sur fond effectivement de monde du spectacle. Pawlikowski le traite avec énormément de rigueur et de retenue. C'est pas du tout un film, c'est pas slab dans ce sens-là, mais je pense que c'est un beau film. J'ai peut-être préféré d'autres films de lui auparavant, mais c'est un film qui méritait d'être là.
Lisa.
Ah, s'il fallait choisir un mi-parcours, pour moi ça c'est mon film favori. Je trouve ça complètement réussi. C'est dans une noir et blanc éblouissant et les personnages sont tellement touchants parce qu'ils ont survécu au Deuxième Guerre mondiale et donc ils ont été obligés en parcours de trahir quelques principes, quelques personnages et donc même s'il y a un coup de foudre entre les deux personnages principaux, c'est pas à cause de ça qu'ils vont être honnêtes envers un et l'autre et l'utilisation de la musique, l'idée qu'on pouvait voyager du bloc communiste au monde libre avec la musique, je trouve ça magnifique.
Alors vous êtes là tous les deux depuis mardi, depuis l'ouverture du festival, chacun pour vos magazines respectifs, tous deux critiques. Qu'est-ce qu'on pense de ce début ? C'est-à-dire qu'est-ce que vous pensez de ce début d'édition du Festival de Cannes pour l'instant ? Est-ce que c'est une bonne année qui s'annonce ? Lisa.
Ah, pour moi, plutôt satisfaisant. Oui, mais si
mais on... des vraies surprises.
J'ai beaucoup aimé Cold War, j'ai beaucoup aimé Leto. Quoi d'autre? Dans les sections parallèles, il y a des petites découvertes. Mais si on m'arrêtait sur la Croisette aujourd'hui à me demander quel est le meilleur film que vous avez vu cette année, ça date il y a 50 ans quand même. C'était 2001 de Kubrick. Mais je suis en face de quelqu'un qui a connu Monsieur Kubrick.
Et vous, Michel Simon?
Pour moi, ce qui me frappe, comme à Venise et comme à Berlin, c'est-à-dire que la distinction entre la compétition et les sections parallèles est très difficile à établir. On a l'impression que ça pourrait être des vases communicants. Il y a des films merveilleux qu'on voit dans les sections parallèles et qui se retrouvent dans les sections, donc pas en compétition, et des films en compétition qui sont catastrophiques.
Et ça, c'est grave, cette confusion.
Ah oui, moi je pense que le rôle d'une sélection, c'est effectivement de mettre les meilleurs films en compétition. Ça me semble. Alors évidemment, dans l'ensemble, on voit toujours beaucoup de bons films à Cannes. C'est évident, c'est, tout le monde veut aller à Cannes et on retrouve des films de grande qualité.
Merci Michel Simon. Rendez-vous demain pour une nouvelle séquence des critiques. Merci à vous, Lisa Nezelson. On peut vous lire merci. Dans les pages du magazine Screen pour lequel vous chroniquez. Un grand merci à Henri Leblanc qui a préparé cette première grande table cannoise, à Perret-le-Gras qu'il a réalisé avec aujourd'hui à la technique Sandrine Malon. Traduction dans la première partie de l'émission signée Pascal Fougère. Au reportage, au micro, Jean-Marie Porchet, François Rivalan. Chargé de production, c'était Pascal Morel. Un grand merci à tous et je vous dis rendez-vous demain pour une deuxième grande table spéciale Cannes. Pour l'heure, sur France Culture, il est 13h30.